Nous vous présentons dans la série Les camps radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ses épaules et lui dit « Qu'est-ce que tu inventes là? T'es complètement folle !»«
Eh bien, demain, tu le lui demanderas à ton fils. »«
Je lui demanderai rien du tout. »«
Et pourquoi? Tu as peur ?»«
Non, parce que ça ne se dit pas ces choses-là. Il va me prendre pour qui ?»«
Demande-le lui tout de même. »
Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner qu'ils prennent avec Guillaume, le père gêné dit
« Ton ami est dans la chambre d'Annie, celle qui est à côté de ta chambre. »
« Non, père, il est dans ma chambre. »
« Et pourquoi? C'est stupide, avec toutes nos chambres. »
Guillaume est rouge de honte. La mère jubile. Nicolas dit à son père «
Je vais avec Guillaume et ceci depuis un bon moment. Et j'ai dit à ma mère que Guillaume couchait avec moi comme à Paris.
Père furieux lui dit,
Paris c'est Paris, ici c'est Lyon, et tu es chez tes parents. Alors tu vas te comporter comme il se doit. Ton ami ira dans une de nos chambres d'amis, et toi? Et puis chez moi c'est pas un bordel.
Je sais père, c'est pour cela que je veux que Guillaume soit officiellement accepté par moi.
Le père furieux a jeté sa cuillère sur la table et dit « Tout le monde a des amis, même moi, ton frère, ta mère, ta sœur, et je les respecte. Mais je ne peux respecter un compagnon débauche immoral contre nature. »
Colin se lève furieux. « Tu devrais avoir honte de parler comme ça.
Je suis ton fils et je n'ai pas changé parce que je ne suis plus ou moins avec un jeune homme. Tu devrais avoir honte de traiter mon invité, notre invité, comme tu le fais, en traitant d'immoral et contre nature. Guillaume et moi sommes reçus dans le monde entier,
même par les Américains, qui pourtant, avec leur politiquement correct et tout, nous ont acceptés. Et seul qui ne nous accepte pas, c'est ma famille, les miens. Viens, Guillaume, partons.
Guillaume rouge de honte et soulagé de partir,
se lève, la mère leur dit, pardonnez-nous, c'est l'effet de surprise. Bien entendu, tu resteras notre fils et tu seras toujours le bienvenu. Mais comprends-nous, tâchons de mieux nous connaître. Restez, asseyez-vous, faites-le pour moi.
Le père furieux se lève, la mère lui met la main sur celle de son mari et lui dit,
toi aussi, c'est moi qui suis coupable. Je t'ai parlé de ça méchamment pour te faire réagir au lieu de mieux t'expliquer la chose. Si vous partez, je partirai. Nicolas, pense à ton frère qui ne comprendrait pas ton départ. Asseyez-vous et terminons notre petit déjeuner.
Ils se rassoivent et terminent leur petit déjeuner. Benoît se demande pourquoi sa femme a fait volte-face.
Que cache cela ?
Puis chacun va à ses occupations. Nicolas et Guillaume vont voir un jeune comédien qui a eu des difficultés à sortir de l'ombre. Ils ont connu une réception, ont sympathisé et sont allés voir ses spectacles. Le comédien habite le premier rue des Capucins dans un vieil immeuble délabré au dernier étage. Un petit studio avec un lit, une table, une chaise, un évier en pierre, les WC sur le palier.
La porte s'ouvre. Un jeune homme dans les 20 ans, grand, mince, à cheveux blonds frisés, habillé d'un pantalon de toile légère bleue, taché de blanc. Bonjour Hercule.
Salut.
Entrez. Ils entrent. Colin lui dit, nous sommes venus te voir parce que nous sommes à Lyon. J'ai bien fait. Fais-toi Nicolas sur le rebord du lit. Et Guillaume sur une chaise.
Vous voulez boire quelque chose ?
Oui, je veux bien.
Du jus d'orange ?
Oui, Guillaume dit.
Moi aussi. Merci.
Guillaume va à l'évier prendre une bouteille et deux verres. Trois verres d'eau qu'il va déposer sur la table.
Et les serre. Nicolas lui demande, « Alors qu'est-ce que tu deviens ?»«
Pas grand-chose, je fais un peu de figuration dans des pièces et joue dans des cafés, des sketchs. » Nicolas lui dit, « Tu devrais faire des choses plus grand public pour te faire connaître. Un comédien qui est dans l'ombre risque d'y rester. » Hercule lui demande, « Que devrais-je faire ?» Nicolas lui répond, « Tu devrais faire du cinéma. » Jouer des pièces qui racontent des histoires et non des pièces qui sont faites pour dire des belles choses, des belles phrases. C'est bon d'entendre ces tests, mais ça ne fait pas avancer l'action. Les monologues dits en regardant dans le vide, en donnant l'impression d'être émerveillé par ce que l'on décrit, ressent. Tiens,
le cid. C'est beau, mais sans les vers et les belles phrases, c'est mieux. Et puis, ça ne fait pas réel, et ça supprime l'émotion. Ce qu'il faut, c'est faire avancer l'histoire, écrire des dialogues efficaces, avant tout et réalistes. Pour faire parler un pamphlet parfait, un paysan du 18e qui en réalité savait à peine 500 mots et ne savait ni lire ni écrire.
Hercule lui dit, tu n'aimes pas ce que je fais?
Si, j'aime beaucoup, mais il faut faire aussi grand public, tu comprends? Le comédien doit avoir deux carrières, une grand public pour se faire connaître et gagner sa vie et l'autre pour se faire plaisir. Réfléchis à tout ça. Et si un jour tu veux faire du cinéma, pour te faire connaître, dis-le-moi. Merci. Nicolas lui demande, la nuit n'est pas trop dure?
Non, je vais avec une copine et puis on sait se débrouiller.
Nicolas regarde sa montre et lui dit, faut que je te quitte. Il se lève, Guillaume aussi.
Hercule les emmène vers la sortie. Nicolas sort de sa poche un portefeuille, l'ouvre et tend 5 000 francs.
Tiens, Hercule fait la grimace parce qu'il croit qu'il va perdre son indépendance.
Pourquoi? Tu veux m'acheter?
Qu'est-ce que tu veux en échange?
Nicolas lui répond,
rien. C'est pour te permettre de financer un de tes projets, car tu dois en avoir.
Hercule lui dit, le projet c'est toujours pareil. Des tests dits dans des petits théâtres, et café.
Tiens, je te rends l'argent.
Non, garde-le. Non, prends-le.
Et il le quitte.
Une fois dehors, Nicolas dit à Guillaume, il n'arrivera jamais à rien. Il n'a de cette lettre de personne. Il veut faire que ce qu'il aime. Il restera toujours petit, avec de petits succès, des trous de gauche, un télo.
Le soir, Nicolas est assis sur la terrasse et prend le frais avant d'aller se coucher. Son père vient le rejoindre, s'assoit près de lui et lui dit
« J'ai bien aimé ton film. C'est un grand film, avec un bon mélange de spectaculaire et d'histoire dramatique. C'est très beau. Tu sais bien mélanger les genres et le public. »
Nicolas comprend que son père veut faire la paix. C'est gagné et Guillaume l'est accepté. Lui et Guillaume sont acceptés.
Denis revient à la maison. Il était parti avec un ami en montagne. Là, il retrouve son frère et Guillaume. Cela ne le surprend pas qu'ils couchent ensemble, puisqu'il les a déjà vus à Paris. La mère se dit que peut-être que ce n'est pas si grave que ça, que deux garçons couchent ensemble. Les deux jeunes gens les quittent. Tout le monde est réconcilié. Avant qu'ils ne partent, Denis demande
« Est-ce que je ne pourrais pas plus tard passer quelques jours à Paris chez Nicolas ?»
Le père lui dit
« Tu peux aller voir ton frère quand tu le veux, mais avant, il faudra le prévenir. »
dans le train qui les ramène à Paris et que leur dit à Guillaume. Tu vois, tout est arrangé. Lyon est très province. Il leur faut plus de temps pour accepter certaines choses. Les jours passent.
Quand on aperçoit le clocher à main gauche, quand on va vers Tillac en quittant Cavaillon. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon an mal an.
Nicolas, chez lui, regarde des copies de films 16 mm de Sacha Guitry avec Guillaume dans le salon. Il dit, j'aime bien les films de Sacha Guitry. Et ces films passent très bien à la télévision. D'ailleurs, c'est une mise en scène télé. Ce servait de deux caméras, une pour chaque acteur et tournée en continu. Ces films étaient très vite faits, car ils dédigeaient que ces acteurs savent leur test par cœur en arrivant au studio. En quelques jours, ils faisaient un film. Et en même temps, même une fois, il a fait un film en une demi-journée. Décor mis à enlever compris.
Des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons.
À Lyon, son père se réveille en se disant
« Il est déjà trop tard. »
Cette phrase lui est venue comme ça, lui donne un cafard terrible.
De quoi trop tard? Trop tard pour faire certaines choses? Trop tard pour recommencer sa vie? Et ce qui m'arrivera plus ou viendra trop tard? Et ce début de la fin, suis-je déjà arrivé à mon dernier tournant? J'ai moins à vivre que ce que j'ai vécu. Le temps passe si vite. Comment vais-je mourir? Que va-t-il rester de moi? Tous mes projets, que je ne veux certainement pas mener à terme, dois-je déjà penser à un successeur? Qu'a été ma vie? Qu'ai-je fait? Ai-je fait le bon choix? Ma vie professionnelle m'a-t-elle pas trop pris de temps? Et l'amour?
Voilà à quoi pense le père. Tout le monde pense à cela. Aussi, à un certain âge, la mort plane. Nicolas est tenté par des rêves sexuels. Il aimerait faire l'amour à trois. Guillaume lui amènerait un petit jeune pour lui montrer ce qu'il veut et prendrait la main de Nicolas et la mettrait entre les jambes du jeune. Le jeune regarderait. Nicolas comprendrait. Ils feraient l'amour ensemble. Puis, il serait debout devant Nicolas. Nicolas caresserait les fesses des deux en même temps. Puis, ce serait tantôt l'un, tantôt l'autre, ou même les deux à la fois. Ce serait très bien. Mais sûrement qu'au bout d'un moment, il aimerait explorer plus profondément le jeûne et lui demanderait de venir et lui dire de revenir seul. Pauvre Guillaume, mais c'est qu'un rêve. Et c'est ce qui incite Nicolas. Parce qu'il est avec Guillaume, pauvre Guillaume, il ne sait pas qu'il le remplace en cachette. Gentil Guillaume, qui fait si bien les jeux du lit. Alors pourquoi un autre entre eux? Peut-être est-ce pour ajouter un jeu supplémentaire? Mais aurait-il cette envie, cette idée avec Y? Son nom pas, parce qu'Y est trop pur, trop tendre. On se purifie auprès d'un ange. Cela ne veut pas dire que Guillaume soit mauvais, donne des idées de dépravation. Oh, surtout pas. D'ailleurs, il ne sait rien des fantasmes de son ami et en serait surpris et peiné. Non. Mais avec Guillaume, on a des jeux de l'amour plus libres qu'avec un ange. À Lyon, Denis, en sortant de l'université, tombe sur la dame en noir. Elle ouvre la portière de sa voiture. Montez, je vous accompagne. Votre père est au plus mal. Tiens, mon père, il y a une crise cardiaque. Où est-il? Dans une pulie, dans les environs de Lyon. Montez, je vous en prie. Denis monte dans la voiture. À l'arrière, à côté de la femme. Et le chauffeur l'a fait démarrer. Denis demande. Qui êtes-vous?
L'ami de votre père.
Où est ma mère?
Elle est près de lui.
La voiture quitte Lyon. Elle roule, 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 roule. Il s'enfonce dans la campagne. Denis, inquiet, demande « Où allons-nous ?»«
À la clinique. » »«
Elle est loin ?»«
Non, pas trop. »
Enfin, la voiture s'arrête devant une grande propriété entourée de hauts murs. Le chauffeur sort de voiture. Et ouvre le portail. Puis retourne dans la voiture. La voiture roule sur un chemin de grand parc où se trouve au fond une maison blanche du 18e, très belle. La voiture s'arrête. Ils sortent de voiture. Mais c'est pas une clinique.
Entrez, vous verrez bien.
Ils entrent. Un escalier de marbre, meuble Louis XV, tout est beau, Mais les volets sont fermés, pas le moindre bruit. Ça semble mort. C'est pas une clinique? Où est mon père? Elle lui dit. Montez!
Il monte au premier. Elle ouvre une porte.
Entrez!
Il entre. La porte se referme. La clé derrière lui. Une chambre avec seulement un lit. Volet fermé. Avec cadenas.
Il crie, tape de poing. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez!
Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez!
Je suis prisonnier, pourquoi? Ouvrez! Ouvrez!
Après une demi-heure où il a crié, hurlé, tapé, il s'est endormi, épuisé. Il est réveillé par le bruit de la serrure. Se lève d'un bond. Un homme pose sur le rebord du lit un plateau avec dessus une assiette de viande coupée en petits morceaux et une autre de petits pois, une carafe d'eau et un verre et une cuillère.
Pourquoi me retenez-vous prisonnier?
L'homme ne répond pas et sort de la chambre.
Ses émotions lui donnaient faim. Il mange et s'endort. Presque tout de suite, peut-être à cause d'un médicament qu'on aurait pu lui mettre dans ses aliments. Puis, il passe du sommeil à la veille. Se sent faible, engourdi, il ne sait plus le temps, ni les heures, ni les jours. Il a toujours sommeil. Des fois, dans son demi-veille, il voit des ombres près de lui, le visage de la femme. Qui est-elle? Que veut-elle? Il semble qu'elle le pique. Il sourit. Il se souvient de rien. Comment je suis venu jusque-là? Qu'est-ce que je faisais avant? Il se sent engourdi. Et c'est tout. Lui, il se sent remué, tiré. Levé, on parle autour de lui, des mains, des visages, on transporte. Une lumière éblouissante fait mal aux yeux. On sort de la maison, on mène, on le pousse. Ça bouge dans tous les sens, dans tous les sens. Envie de vomir. En plus, ce jour entrecoupé d'ombre, ce bruit infernal. Il perd connaissance. Il se réveille, il a froid, se sent humide, il fait nuit, il a mal de partout. De partout. Il se sent. Il sent mauvais. Petit à petit, il reprend connaissance. Il voit qu'il est couché près d'une sortie d'une bouche d'égout qui donne sur le fleuve. Le Rhône, peut-être, pas sûr. Il se lève avec difficulté. Il fait nuit. Il voit ses vêtements sales. Pourquoi m'a-t-on mené ici? Et qui? Il fait quelques pas. Où suis-je? Je suis le fleuve et on verra bien. Il se met en marche, il a froid, courbaturé, le cerveau comme dans un étau. Il marche dans la nuit. Au bout d'une heure de marche, il voit qu'il est sur le quai de Saône, au pont Rimbaud. Il continue à marcher pour aller au centre-ville. Il fait nuit, il n'y a presque pas de passants. Il va être très tard. Enfin, il arrive vers ses parents, appuie à l'interphone, attend un moment, entend le domestique demander « Qui est-ce ? » « C'est moi, Denis. »« Oh, monsieur Denis, entrez !» Le portail s'est ouvert, il entre. Long vieux parc est... Entre dans la maison. La lumière s'éclaire. Des portes qui s'ouvrent. Des pas dans les escaliers. Il voit apparaître, en robe de chambre, ses parents. Lui les attend en bas d'escalier. Il le regarde. Sa mère lui dit
« Dans quel état tu es ?»
Son père lui dit « Où étais-tu ? On t'a cherché de partout. On te croyait parti avec des amis. Tu as 18 ans, mais tu vis avec nous. Alors dis-nous. » Ben voilà, à la sortie de l'université, une femme est venue me chercher pour me mener à toi parce que tu étais soi-disant malade. Elle m'a prise en voiture et m'a séquestré dans une maison, avec des hommes. Puis, l'on m'a relâché sur les quais de Saône. Mon père lui dit, « Pourquoi mens-tu ? Tu étais avec une fille, c'est de ton âge. Mais tu aurais pu nous prévenir. Mais père, je te dis la vérité. Tu nous mens. Tu nous prends pour qui ? Pour des imbéciles ? Va te coucher. Allons nous coucher. Et il est tard. »
Et ils montent à l'étage pour aller dans leur chambre.
Denis entre dans ta chambre. Il se déshabille.
Se pose des questions. Pourquoi m'a-t-on libéré ? Et tout à coup, il voit sur son lit une lettre. Il la prend, l'ouvre. Ellie, nous nous reverrons, mon ami. Un sacrifice doit avoir lieu. Tu es celui qui doit, celui qui fera. On a tué, il faut tuer. Vous avez trop pris les gens pour des personnages. Vous avez acheté, ou vous achèterez. On vous a donné une broche où on a, à l'intérieur se trouve un mot, un vieux papier. Il le faut. Cela vous protège trop. Vous êtes tous perdus. Et vos amis aussi. Signé, la dame en noir. La dame en noir. Denis se dit que c'est une farce. Il met la lettre dans sa poche. C'est du fantastique et compagnie. Une farce bien faite. J'ai eu vraiment peur. C'est peut-être des jeunes de l'université. Il y en a beaucoup qui aiment jouer à ces histoires fantastiques. Cela le rassure. Et la vie reprend. Le lendemain matin, au petit déjeuner qu'il prend avec sa mère, il lui dit « J'ai trouvé une lettre tout à fait idiote qui m'a fait comprendre que ma séquestration était une farce des jeux de l'université. » Sa mère lui dit « Tant mieux, l'affaire est close comme ça. » Sortie d'université, Denis retrouve son amie, une jeune fille blonde, cheveux longs, grande, mince, élégante, très belle. Habillée d'une jupe écossaise à dominante rouge, une veste de cuir marron et ses jambes, 18 ans. Ils vont tous les deux au café Brasserie qui est près de l'université. Une fois dans le café, il se sent assis à une table un peu au calme. Après avoir commandé deux jus de tomate, il lui a raconté ce qui lui est arrivé. Elle lui dit « Ils sont très forts et c'était même dangereux puisqu'ils t'ont drogué. Tu aurais pu en mourir. Si c'était toi, j'irais porter plainte. » Après avoir bu leur jus de tomate, ils sont allés tous les deux au commissariat. Le commissaire, un homme gros, grand, chauve, costume gris, les reçoit dans son bureau. Il a une petite table qui sert de bureau, une bibliothèque et deux chaises. Asseyez-vous.
Il s'assoit. Je vous écoute. »
Et Denis lui raconte ce qui est arrivé.
« Est-ce que vous pouvez me décrire la femme ?»«
Non, pas vraiment. Je sais seulement qu'elle était grande, mince et habillée de noir. »«
Vous êtes sûr de ne pas la connaître ?»«
Oui, monsieur le commissaire. »«
Alors, et la maison ?»«
C'était une maison au fond d'un parc. Belle maison ancienne. »«
Oui, où était-elle ?»«
Nous avons beaucoup roulé et je suis incapable de vous dire où. »
Le commissaire soupire et lui dit.
Avec si peu de renseignements, je ne peux rien faire.
Mais vous êtes bien le frère du metteur en scène, Nicolas Scraff.
Oui, monsieur le commissaire.
Ah, je comprends. Cette histoire de bande dessinée est une blague, non?
Non, monsieur le commissaire, je vous assure.
Vous me prenez pour qui, mon ami? Ça fait 20 ans que je suis dans la police et c'est la première fois que j'entends une histoire aussi abracadabrante. Alors, allons, dites-moi que vous vouliez me faire une farce, et n'en parlons plus.
Mais monsieur le commissaire, je vous assure,
ça suffit mon ami. Si vous continuez, je vais vous arrêter pour non-respect à un commissaire de police. Alors j'attends vos excuses ou j'appelle un agent pour vous mettre au trou.
Jean lui dit, donne tes excuses et sortons.
Mais Jean, je t'assure.
Denis, donne tes excuses et partons.
Denis soupire et dit,
je m'excuse, le commissaire lui dit.
Je les accepte, parce que j'aime les films de votre frère. Donc l'incident est clos, classé. Vous pouvez partir.
Je ne suis pas un mauvais gouffre. Je connais la jeunesse.
Et puis, pour vous la police, les flics, c'est RSSS, etc. Allez, partez.
Et ils s'en vont penauds.
Une fois dehors, Denis dit,
je t'assure que cette histoire est vraie. Elle lui dit, arrête avec cette histoire à dormir debout.
Benoît est dans son bureau, dans le bureau de son entreprise. Il ouvre une lettre et la lit.
Monsieur, nous avons libéré votre fils, mais la prochaine fois, ça se passera autrement. Toi qui n'as pas eu pitié, souviens-toi du 15 novembre. Qu'as-tu fait de ce que tu sais? Celui qui doit être? Tu ne dois pas gâcher ce sang-là. Signé, la dame en noir. Après avoir lu, il marque en tête de la lettre répondre. Et met la lettre sans enveloppe dans le tiroir de son bureau. Tard, alors qu'il est au salon, après dîner, Benoît dit
« J'ai oublié un dossier dans mon bureau. Est-ce que tu veux y aller chercher, Denis ?»«
Oui, père. » Denis se lève, va vers son père, qui lui tend la clé.
« C'est un dossier rouge, dans le tiroir de mon bureau. »«
Merci, mon petit. »
Et Denis sort. fois dans le bureau de son père. Il va ouvrir le tiroir du bureau. Et là, il trouve le dossier rouge. Dessus, se trouve une feuille de papier. Il prend le dossier et la feuille. Et puis la feuille, la lit. Après l'avoir lu, si ça avait été une blague, Père l'aurait déchiré. Il ne garde rien du surplus de son courrier, même pas les cartes de vœux, il les jette. Il voit qu'il y a marqué réponse. J'aimerais bien savoir ce qu'il a répondu. Il cherche encore dans le tiroir et ne trouve rien. Il met la lettre dans sa poche. Ferme le tiroir et sort du bureau. En passant dans le couloir, devant la photocopieuse, il pense en faire une photocopie. Il fait la photocopie et remet la lettre où il l'a trouvée dans le bureau. Donnant le dossier à son père, il ne lui parle pas de ce qu'il a trouvé. Le soir, une fois dans sa chambre, il met la photocopie de la lettre. Qu'il avait mis dans sa poche, dans un livre. Alors Denis ne sait que penser. Il se tient sur ses gardes. Chaque fois qu'il sort de chez lui, il regarde bien si la dame en noir où la voiture s'y trouve. Il surveille aussi le courrier, voit que le domestique l'a déposé sur le guéridon du salon et regarde les lettres. Il ne trouve rien de spécial. À la sortie de l'université, il sort avec des groupes pour moins être reconnu. Le chemin qu'il remène à la maison, il se dépêche le plus vite possible et évite les rues désertes. Le soir, il ne sort plus. Les jours passent. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, il va voir son frère à Paris. Lui dit ce qui lui est arrivé, lui raconte toute son histoire et lui montre la lettre. Nicolas lui dit « Oh, c'est sûrement une blague, n'y pense plus. Tiens, je vais te présenter une jeune actrice très belle, plein de talent, parce que naturel, et c'est ce qu'il y a de mieux au cinéma en ce moment. » Denis fait la grimace. « Je te parle de mes problèmes et tu veux me présenter une actrice. » Nicolas lui dit, « C'est pour te faire changer les idées, et puis tu verras, tu ne le regretteras pas. Fais-moi plaisir. » « Bon, j'irai. » Le lendemain après-midi, Nicolas mène son frère chez cette jeune actrice qui habite dans un immeuble moderne rue de Rivoli
au deuxième étage.
Jeune femme, grande, mince, blonde, habillée hanches pulpeuses, très belle, habillée d'une robe vichy rose, a dans ses bras un petit caniche blanc. Bonjour Béa. Bonjour Nicolas. Je te présente mon petit frère Denis. Entrez, je vous en prie. Ils entrent. Elle regarde bien Denis et dit « Tu as bien fait de me le présenter. Il est très mignon ton frère. Beaucoup plus joli que toi. On dirait un ange. Tiens, je vais t'embrasser. » Elle met son caniche à terre et embrasse Denis qui est tout rouge. Puis elle leur dit « Allez, allons au salon. » Elle les mène. Tenez, entrez. C'est une grande pièce, très éclairée, meublée Louis XV. Asseyez-vous. Ils s'assoient sur des chaises devant une table basse en verre.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Ginet Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 36e partie. Production, mise en scène, Ginet Jean-Pierre, enregistrement, c'est